بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفاء الإسلام نرمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de continuer de jeûner. Alhamdulillah, on est passé dans la deuxième décade du mois de Ramadan. Et si on n'est pas attentif, si on ne prend pas soin, on ne fait pas qadar, comme on dit, de chaque jour qui passe, on risque de se retrouver très rapidement à quelques jours du Eid et voir le Ramadan passer sous notre nez, ce qui serait impardonnable. Ce qui serait impardonnable parce que le munafiq, c'est moi qui attribue le terme munafiq, qu'Allah nous protège, la personne qui n'aime pas le iman, la personne qui ne trouve pas de place pour le véritable iman de son cœur, il attend la fin du Ramadan. Il souhaite que le Ramadan passe le plus vite possible, afin de retrouver ses mauvaises vieilles habitudes, afin de retrouver ses péchés, afin de retrouver son cercle d'amis, afin de reprendre la vie qu'il aimait. Et ça, les ulama, rahimahullah, expliquent que quand une personne trouve dhiqa, quand une personne trouve un certain malaise dans son cœur durant ce mois, c'est qu'il y a des questions à se poser. C'est que la situation est déjà très grave. Alors que le mu'min, normalement, il doit trouver ce qu'on appelle inshirah al-sudur. Il doit trouver une quiétude, une tranquillité. Il doit trouver un bonheur intérieur durant ce mois. Parce que les récepteurs sont top. Les récepteurs, c'est-à-dire le cœur, al-qalb, le cœur est purifié durant ce mois. Les points noirs qui viennent sur le cœur, alhamdulillah, chaque fois qu'on a demandé pardon à Allah Azza wa Jalla au moment de la rupture du jeûne, ben les points noirs sont enlevés. Shaitan n'est plus présent, le nafs est affaibli, c'est-à-dire ce cœur, il retrouve de sa fraîcheur. C'est comme, par exemple, c'était une personne âgée, 80-90 ans, qui a un cœur qui est fatigué, et tout d'un coup, on lui a mis, mashallah, de l'adrénaline, une piqûre qui lui redonne un cœur de 30 ans. Là, ça redémarre. Il y a tout, mashallah, il y a tout qui suit. Voilà. Déjà, on parle du cœur pour l'instant, c'est amplement suffisant. Donc, la personne retrouve une certaine vitalité. C'est le fasiq ou le pécheur endurci, ou le pécheur d'une manière générale, ce qui est notre cas, Allah Moustan, les pécheurs. Mais durant ce mois, on trouve la maghfira, le pardon d'Allah Azza wa Jal, sa clémence. Et du coup, mashallah, ce cœur, il reprend. Il prend de bonnes habitudes et il est en train d'entrer de façon un peu plus profonde dans ces 4 ou 5 a'mal qu'on avait expliqué la dernière fois. Ces 4 ou 5 réactions du croyant qui sont à la base de la taqwa. S'en tenir à la promesse qu'on a fait avec Allah de compléter le jeûne, la possibilité de rester éloigné du haram, la possibilité, la patience et l'endurance dans l'accomplissement des bonnes actions, la patience dans les moments de difficulté. Et peut-être un cinquième point le muraqabatullah, la pensée permanente d'Allah, être conscient qu'Allah est au-dessus de nous, qu'Allah nous voit. Quand on a parlé de cette personne qui ne penserait jamais à s'isoler pour manger quelque chose, parce que même si toute l'année il ne prie pas, il fait plein de péchés, il est, astaghfirullah, le dernier des derniers, mais durant ce mois il sait qu'Allah le voit. C'est pour ça qu'il ne va pas aller s'enfermer d'un endroit pour manger un sandwich, ressortir et retrouver ses frères en islam. C'est pas possible, parce qu'il y a ce qu'on appelle le muraqabatullah. Et ça, ikhwani fillah, les savants disent que ça c'est les premiers pas, c'est la base de la taqwa, c'est les premiers pas qui nous amènent vers la piété. Donc le croyant, même s'il ne s'était pas fixé comme objectif d'aller aussi loin en termes de spiritualité, mais malgré lui, alhamdulillah, par le biais de ce tamrin, par le biais de cet entraînement, par le biais de cette école qui est le Ramadan avec le jeûne, ben il y arrive, mashallah. On fait un pas, alhamdulillah. Et tant qu'il y a du khair de le cœur, tant qu'il y a du bien de le cœur, ben, le mu'min est attaché au mois de Ramadan. Mais à partir du moment où dans ce cœur, on ne veut pas faire une place pour Allah, c'est pas qu'il n'y a pas de place, astaghfirullah, c'est que la personne, le dunya est tellement entré dans son cœur que la seule chose qui l'intéresse, lui, c'est tajawuz, Ramadan. Que ce Ramadan se termine, je limite les dégâts, je contrôle, je garde tous les péchés sous contrôle pour l'instant. Et quand le Ramadan est terminé, je me laisse aller, je retourne vers mes vieilles habitudes. Ça, c'est extrêmement grave. Et Allah nous protège d'avoir 1% ou 10% de sifat commun à cette catégorie de personnes. Parce que ça, c'est les pires des personnes. Il y a certains athar, il y a certaines sources qui nécessitent un peu d'authentification dans la chaîne de narration. chose qu'on n'a pas pu le faire pour l'instant, mais juste le message, et puis on vérifiera est-ce que c'est sahih ou alors c'est l'opinion d'un savant, dit que celui qui obéit à Allah Azza wa Jal, celui qui obéit à Allah Rabbul Izza durant ce mois, avec l'intention ferme de retourner vers ses péchés après le mois de Ramadan, rien n'est accepté de cette personne. À vérifier, mais c'est un sens qu'on peut comprendre. La personne qui fait de bonnes actions, mais il a l'intention ferme pour lui, le 2 Shawwal, il a déjà pris rendez-vous avec sa petite copine, il a déjà pris rendez-vous là-bas. Bref, tout est programmé. Comme vous programmez vos vacances, comme nous on programme nos vacances, on dit que voilà, telle date je prends l'avion, je prends l'hôtel et ainsi de suite. Mais il a tout programmé pareil. Ben pareil, les vacances, l'avion, l'hôtel, mais avec la copine, avec Ramadan Moustang. C'est-à-dire celui qui prévoit le retour vers le péché déjà durant ce mois, selon certaines sources, certains infâmes, et dit que ces actions ne sont pas acceptées. À vérifier la source. Mais ce qui est sûr par contre, c'est que ce genre de personnes, son taouba n'est pas accepté. Ça là-dessus, il n'y a pas de divergence d'opinion. Il n'y a pas besoin d'un avis, d'un texte, parce que ça suit les conditions du taubatun nasuha, le repentir sincère, on a plus ou moins eu l'occasion d'en parler, qui nécessite, parmi ces conditions, ces trois shurut, al-azmu ala admi al-auda, l'intention ferme, la résolution de ne plus retourner vers le péché. Et donc cette personne qui a déjà l'intention de reprendre ses péchés après le mois de Ramadan, mais il n'a pas fait azm de son cœur. Et on ne ment pas à Allah. Je peux mentir à tout le monde ici présent. Je peux vous faire croire à tous que je suis quelqu'un de bien. Astaghfirullah. Mais Allah Azza wa Jal, je ne peux pas. Je ne peux pas tromper Allah Azza wa Jal. On a expliqué cet après-midi, ce matin dans un programme pour les dames, que Allah Azza wa Jal, parmi ses sifat, c'est qu'elle était alimum bidat al-sudur. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal sait exactement ce qu'il y a dans les poitrines. Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. On peut cacher à plein de gens, plein de choses, mais Allah Azza wa Jal, on ne cache strictement rien. Parce que le ilm d'Allah Azza wa Jal, c'est également concernant ce qu'il y a de ton cœur, la réalité. D'ailleurs, le seul qui peut juger le cœur d'une personne, c'est notre Rabb. Personne ne peut dire que toi tu es quelqu'un de bien, toi c'est quelqu'un de pas bien, ou toi tu as des péchés. Il y a des gens qui s'aventurent comme ça, et à essayer de dire, j'en ai rencontré, ça c'est impossible. Oui, Abu Hanifa, rahimahullah, il y a eu un moment où, certainement, ça c'est des karamas, où il voyait parfois des péchés, mais c'est pas mutlaqan, c'est pas en permanence, quelqu'un il peut voir les péchés de quelqu'un, et heureusement, ça c'est une protection qu'Allah nous donne, que l'homme ne peut pas démasquer son prochain. Alhamdulillah. Parce qu'imaginez qu'on pouvait démasquer le nifaq, l'hypocrisie de son prochain. Ben, on ferait vitement le tri. Mais alhamdulillah, nahkum ala dhahir. On agit avec les gens en fonction de l'apparence. Il se dit mu'min, khalas. On n'a pas à juger, mais est-ce que dans le fond, il ne fait pas des péchés? On n'a même pas besoin d'aller chercher dans la vie des gens pour connaître le fond. Ça, ce n'est pas notre problème. On est là, on a un akhlaq de croyant avec lui. On peut l'inviter vers le din, vers ziyadatul iman, vers les bonnes œuvres, mais on n'a pas à aller fouiller dans la vie des personnes. Bref, ce que vous voulez dire, c'est que Allah seul, c'est ce qu'il y a dans les cœurs. Et personne ne peut cacher Allah Azza wa Jal des saletés dans le cœur qu'on garde enfouies. Donc, on doit être honnête avec Allah Azza wa Jal. On doit être clair avec Allah Azza wa Jal. Chaque personne ici présente sait exactement les péchés qui l'envahissent. Quels sont les péchés envahissants? Quels sont ces péchés qui sont en réalité des freins qui nous empêchent de nous avancer auprès d'Allah Azza wa Jal? Et ça c'est un musiba. Ça c'est vraiment quelque chose de compliqué, lourd en conséquence. C'est-à-dire nous avons un cheminement à faire vers Allah Azza wa Jal et la seule chose qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah, c'est les ma'as, c'est les péchés. Parce que chaque péché, il y a un point noir qui s'inscrit dans le cœur. Et quand on cumule des péchés, ben, on n'arrive pas à la taqwa. Parce que pour arriver à la piété, il faut en même temps faire de bonnes actions et abandonner les péchés. Si chaque jour je greffe 70 bonnes actions et je greffe 30 péchés, est-ce que j'arrive à la taqwa? J'avance un petit peu, mais ce n'est pas le bon cheminement. Parce que ces péchés-là sont en train de m'alourdir, sont en train de mettre un voile sur mon cœur. Il m'empêche de voir réellement la vérité. Il m'empêche d'entendre réellement la vérité. Le message du Coran ne pénètre pas réellement mon cœur parce qu'il y a ce voile. Les savants disent que le point noir, c'est un voile qui nous empêche également de voir la lumière du Coran. Ça, il y a pas mal de versets qui vont de ce sens. Alif lam mim dhalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. ceux qui ont la crainte d'Allah, et l'autre c'est pour les muttaqin. Et pas mal de versets, on ne va pas tous les citer, qui rappellent que le Coran est profitable, une source de lumière pour ceux qui ont la crainte d'Allah de le cœur, pour ceux qui ont la piété. Le cœur qui est noir ne profite pas du Coran. Donc, c'est un travail à faire avec nous-mêmes. On n'est pas dans une religion où on va se confesser. De toute façon, on n'accepte personne. Autrement, on aurait ouvert un business depuis très longtemps et on serait très riche. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, tu as fait des bêtises, viens, on se confesse, 30 euros la demi-heure, et tu me parles de tes péchés, et moi, je te donne l'illusion que j'ai la solution pour que tes péchés soient pardonnés. Tu n'as pas besoin d'un mufti pour connaître comment te faire pardonner tes péchés. Tu n'as pas besoin d'un fundi pour connaître comment se faire pardonner tes péchés. Le Coran, le message est clair. C'est-à-dire comme tout le monde ici présent, moi en premier, ceux qui ont fait des erreurs, qui se sont fait du tort à eux-mêmes en accomplissant les péchés. Dhakarullaha. Première chose, tu penses à Allah. Je te rappelle que tu as au-dessus de toi, Mufassirin dit que au-dessus de toi qu'il y a Rabbuka muttali'un alayk. Allah, il t'observe, il voit tes erreurs, il voit tes péchés, il voit tes bonnes actions, mais également tes péchés. Dhakarullaha. Et là, la réaction, c'est, et ça, c'est la réaction logique du croyant. Quand il sait qu'Allah est au-dessus de lui, quelle est la réaction première? Il demande pardon, oh Allah, j'ai fait quelque chose de pas bien, pardon, ya Allah. Tawba ya Rabb, fastaghfiru li dhunubihim. Et ce croyant a le husnu dhanni billah, la bonne pensée sur son Seigneur. Il se dit pas que c'est trop tard. Il se dit pas que j'étais trop loin d'aller pécher. Parce qu'il sait que wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. À part Allah, qui pardonne? Quel être humain nous pardonnerait notre infidélité, nos manquements, nos erreurs? Un homme qui trompe sa femme une fois, ben, c'est un exemple, excuse-moi, c'est décalé. Peut-être sa femme le pardonne, lui demande pardon à Allah et sa femme va peut-être le pardonner une fois. Sa femme apprend qu'il a trompé une deuxième fois. Tu retrouves ton bistara devant la porte, hein. Ton petit balou, il est dehors. D'accord? Et même le carré qui a fait cuit midi, ou gagne pas. Khalas, rouh. Allez dans l'hôtel select, allez dans où tu veux. Une fois on a pardonné, on ne pardonne pas. Notre Seigneur à qui, subhanallah, on doit la vie. Qu'est-ce que nous devons à notre épouse? Al-hub, la fidélité et l'amour. Basse, c'est pas elle qui m'a donné la vie, c'est pas elle qui me donne mon rizqa, c'est pas ma subsistance, c'est pas elle qui me donne la santé, c'est pas elle qui me donne la possibilité de respirer. La réalité, tout ça, c'est Allah Rabbul Izzah qui nous donne. C'est pas elle qui m'a donné iman. Et des gens, il y a des gens qui seraient prêts à s'agenouiller devant leur femme tellement ils sont amoureux de leur épouse. C'est pas elle qui t'a donné tout ça. Si vraiment on doit faire khudu', on se soumet, c'est devant notre Seigneur qui nous a tout donné. Et à notre Rabb, subhanallah, malgré tout ce que nous lui devons, on a fait telle bêtise, telle erreur, manquement dans les salats, manquement dans l'obéissance envers les parents, manquement dans nos a'mal, nos actions. Aucun contrôle de notre regard, aucun contrôle de nos oreilles, aucun contrôle de notre cœur, de nos jawarih. Et on demande pardon. Et après on retombe dans le péché parce qu'on est faible, pas parce qu'on avait l'intention. Et là le tafsir est très intéressant, très 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 intéressant. Les Mufassirin expliquent que la personne qui a accompli un péché et qui demande pardon à Allah Azza wa Jal et qui était sincère, il obtient le pardon. Et que malgré lui, parce qu'il y a une faiblesse en lui, malgré lui, il retombe dans ce péché quelques jours après. Est-ce qu'Allah pardonne ou pardonne pas? T'en pardonne pas? Ah, c'est pas un, je ne demande pas votre avis en fait. Parce qu'il y a un hukm shar'i là-dessus. C'est Allah Rabbul Izzah qui a décrété. À la lumière de la kalam, Nabi Sallam, de la parole du Prophète Sallam, un sahaba du Prophète d'Allah, un homme qui pêche, qui fait des erreurs, qui demande pardon, hey, comprenez qu'il a demandé pardon sincèrement, et qui retombe dans ce péché. Est-ce qu'Allah pardonne? Le Prophète Sallam dit qu'Allah pardonne. Et s'il recommence, Allah va pardonner. Et s'il recommence, Allah va pardonner. Tant qu'il demande pardon, Allah va lui accorder pardon. Adib. Ajib, ça c'est Ghafur Rahim, pardonneur, miséricordieux. Mais les savants disent en commentaire du hadith que c'est quelqu'un qui a demandé pardon avec shurut, avec les conditions, mais que vraiment il a tenu ferme, il a craqué, il est retombé. Ça c'est, il y a des jeunes, on est entre adultes là, d'accord, c'est un public masculin, il n'y a pas à censurer quoi que ce soit. Quand on discute avec des jeunes, il y a encore des jeunes qui acceptent de discuter, alhamdulillah, et je vous rassure, il y a beaucoup de khair, il y a beaucoup de bien chez nos jeunes. Parfois on dresse un tableau noir, ouais, les jeunes sont comme ça, c'est comme ça. Mais ceux qui sont de le din, mashallah, il y a peut-être, je m'avance, il y a peut-être plus de khair que dans les anciennes générations. On voit, moi, subhanallah, on a des élèves dans le quartier où on est, pourtant c'est un quartier compliqué, c'est le chaudron, c'est vraiment le Bronx, d'accord. Quand je vois certains de mes huffaz, de mes jeunes hafiz du Coran, je vois leur visage, mounawwar, j'exagère pas, rempli de nour, se lèvent à 5h30, ils sont là, et je sais où ils habitent. Ils viennent à pied, il fait noir, ils viennent, ils font hivr, et je sais également dans quelles conditions ils vivent aussi. Des états, des situations parfois de pauvreté, des situations difficiles, on connaît les réalités du quartier. Et ils viennent, ils apprennent le Coran, ils sont motivés, ils restent. La madrasa, on termine à 6h, à 7h moins 20. Ils continuent, ils n'ont pas cours, ils restent jusqu'à 7h15, 7h30, ils apprennent le Coran. Franchement, il y a des fois où j'ai une boule dans la gorge, je me dis que cette Ummah est toujours de le khair. Cette Ummah, elle est protégée par Allah. Si on trouve à notre époque des jeunes qui sont aussi accrochés au Coran, malgré le fitna, les fitna qu'il y a autour, malgré les péchés qui les concernent, que si ça concerne notre génération, il y a plus d'un qui serait déjà tombé. Les asbab de ma'asi à notre époque, ce qui nous amenait, ce qui pourrait nous amener vers le péché, qui pourrait nous faire glisser vers le péché, et à notre époque, quand on était jeunes, c'était muhaddad, c'était limité. Mais vu tout ce qui touche les jeunes, ou le haram, vous n'avez pas besoin d'aller chercher loin, vous avez un portable, vous vous connectez, vous avez tout ce que vous voulez voir, tout ce que vous voulez, de pire vous l'avez. Et que malgré ça, on trouve des shababs, des jeunes qui restent accrochés au dîn, qui contrôlent leur regard, et ça, on n'est pas des saints pour lire sur le visage, mais on voit, on connaît, on voit des jeunes. Quand il y a une nour, une lumière comme ça sur le visage, c'est que c'est des jeunes qui se contrôlent, qui ne vont pas vers le haram, alors qu'ils peuvent le faire aisément, facilement, ils ne le font pas. On se dit que ce dîn-là, ben, il est protégé par Allah. Si c'était à Moulana un tel, Mufti un tel, ou Fundi un tel, de protéger la religion, il n'y aurait plus de dîn. Le fait de trouver de ce contexte de fitna, à notre époque, des jeunes qui restent accrochés au dîn, ça c'est vraiment wa'idullah. Ça c'est vraiment la promesse d'Allah Azza wa Jal, qu'il a promis qu'il protégera sa religion par des personnes qui vont venir de génération en génération. C'est des gens qui auront iman, le nour dans leur cœur. Donc, quand on discute avec certains jeunes à propos des péchés envahissants, je parle des jeunes garçons bien sûr, un des péchés qui revient le plus souvent, comme je l'ai dit, hein, je ne veux pas heurter les oreilles de quiconque, mais quand même, il faut être un petit peu réaliste. Un des péchés qui revient le plus souvent chez les jeunes, 14-15 ans, c'est la masturbation. C'est un péché envahissant. Ils disent que le sable est difficile de tenir. D'accord ? Parce qu'il y a les pulsions, il y a les, comment on appelle ça, la testostérone, il y a, bref. Nous sommes des insans, des êtres humains. Donc il y a des gens qui disent comme ça, on a fait niet, on arrête, maintenant on essaie de se rattraper et tout. Puis la personne dit que on avait fait intention, on a tenu un mois, deux mois, on est retombé dans le péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je dis que, moi je te dis pas moi qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il faut faire. C'est auprès d'Allah il faut retourner. Il n'y a pas besoin, peut-être même pas besoin de me dire, mais c'est, ils ont gros sur le cœur. Cette réaction de dire à quelqu'un, tu es ma retombe dans le péché, quoi il faut faire? Ça c'est dalil al-iman. Parce que celui qui, astaghfirullah, celui qui ne se préoccupe aucunement de son akhirah, celui qui ne se préoccupe aucunement du regard d'Allah sur nous, celui qui ne se préoccupe aucunement du regard des malaks, des anges qui inscrivent les actions bonnes et mauvaises, vous pensez qu'il se fait du souci pour ça? Vous pensez qu'il a des remords? Vous pensez qu'il a un sentiment de culpabilité, quel que soit le péché? On a donné un exemple, parce que c'est un exemple concret et réaliste. Vous pensez qu'il se fait du souci? Abadan wallah! Puis son péché, il trace, parce qu'il ne croit pas réellement aux anges où Allah le voit. Ou alors ça n'intéresse pas, il ne se projette pas de l'akhirah. Dire qu'Iman n'est pas vraiment entré dans le cœur. Maintenant, le mu'mine qui se trompe, qui fait une bêtise, parce que nous restons des êtres humains encore une fois, et qui pense à Allah, ça c'est la réaction du croyant. Et à partir du moment où il était sincère de son tawba, et qu'il a chuté une autre fois, parce qu'il vit dans un contexte, ou parce que la situation est complexe, c'est comme ça, mais qu'il soit rassuré, le nombre de fois qu'il demandera pardon à Allah Azza wa Jal, il obtiendra le pardon de la part d'Allah Azza wa Jal. Parce que notre Rabb, il est Ghafur Rahim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. C'est le seul qui peut pardonner de cette façon. Et avec les conditions. Dans un verset, Allah Rabbul Izzah dit également, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ. Tout ce qu'il y a en dehors du shirk, n'importe quelle quantité de péché qu'on a pu accomplir, mis à part le polythéisme, bien sûr le shirk, Allah Azza wa Jalla est capable de pardonner. Que personne ne se sente éloigné d'Allah. Que personne ne considère son cas comme trop grave. que personne ne pense que je me suis trop éloigné de mon Seigneur et qu'il n'est plus possible de revenir vers lui. Abadan wallah. Dans notre verset, Allah Azza wa Jal dit, subhanallah, le verset ne me revient pas, khair, inshallah. Le verset qui stipule que inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Et le terme jami'a, c'est l'intégralité. Tout ce qu'un homme va accomplir comme péché durant une vie, quel que soit le naw'iyya, la catégorie de péché avec la langue, avec le cœur, avec les gestes, les membres. Mais s'il retourne vers Allah Azza wa Jal avec ikhlas, sincérité, il trouve le pardon d'Allah Azza wa Jal. Mais encore une fois, à condition qu'il soit sincère. Remords, an-nadam, il regrette ses péchés. Al-azm, l'intention ferme de ne plus recommencer et qu'il prend les précautions, il s'arrange pour ne plus retomber vers dans les mêmes péchés. C'était le problème, c'était un cercle d'amis qui l'amenait vers les stupéfiants, vers les bars, vers l'alcool ou vers les boîtes de nuit. La première chose à faire après avoir demandé Tawbatun Nasuha, c'est de changer de fréquentation. Qu'il reste un peu plus souvent dans la masjid, qu'il fréquente les jeunes qui sont dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. De cette façon, il prend des précautions. Et on avait demandé aux élèves, il y a quelques semaines, dans un cours de hadith, on parlait de la clémence d'Allah. On avait demandé, et je pense qu'on avait expliqué ce hadith ici aussi, mais c'est un rappel, et le rappel c'est pour moi en premier de toute façon, c'est profitable pour nous tous. On avait demandé, quel est le hadith qui vous parle le plus, qui vous touche le plus, et qui illustre le mieux le maghfirah d'Allah Azza wa Jal. Ils ont donné certains hadiths que soit ils avaient appris, on avait appris ensemble, ou ils connaissaient déjà, ou ils avaient écouté dans les ta'alim, dans les assemblées religieuses. Et le hadith, par excellence, et c'est un hadith tatbiqi, c'est un hadith appliqué. C'est pas un hadith où on parle Allah est capable de. Non, c'est un hadith, c'est un récit où on voit que quelqu'un a fait ça et Allah a réellement pardonné. Et Allah lui a réellement accordé le Jannah. C'est le hadith exact. Cette personne qui connaît ce hadith, il n'y a même pas besoin de le raconter. Les savants, les ulama, rahimahullah, lorsqu'ils parlent de ce hadith, ils disent juste hadith alladhi qatala, celui qui a tué 99 personnes. Sans donner de détails, parce que normalement, la Ummah, le monde musulman connaît ce hadith. Le monde musulman devrait connaître ce hadith parce que c'est un hadith qui amène de l'espoir dans le cœur. C'est un hadith qui donne du raja, de l'espoir. C'est un hadith qui nous permet de garder confiance en la clémence d'Allah Azza wa Jal. Et c'est ce qui est magnifique dans notre religion, dans notre dîn. Ce qui est magnifique dans les paroles de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il vous explique les qualités d'Allah, vous explique comment Allah est généreux, clément, et il vous donne ensuite des exemples, tatbiqi, appliqués, de personnes qui se sont trompées, qui ont fait des erreurs, et qui ont demandé pardon, et qui ont obtenu le pardon d'Allah Azza wa Jal. Le prophète a donné le cas, a cité le cas d'une personne qui en plus appartenait au Ummah. Salifa, aux autres communautés, c'est-à-dire avant Mohammed sallam. Et les savants disent, premièrement, ça nous fait comprendre que Allah était clément même avec ceux qui étaient avant nous. Donc n'en parlons plus de cette Ummah, Mimbab Aoula. C'est la communauté la plus aimée par Allah, Khair Ummah, la meilleure des communautés. Et donc cette personne avait tué 99 personnes. Hadith connu. Si quelqu'un n'a jamais entendu le hadith, qu'il lève le doigt, subhanallah, et qu'on l'explique. Mais normalement, la Ummah, elle connaît. Et il a été voir une personne, il dit, qu'est-ce que Halli min Tawba, on fait en train de l'expliquer, est-ce qu'il y a possibilité pour moi de retourner vers Allah? Il a été voir, les savants disent qu'il a été voir un abid, un adorateur d'Allah qui n'avait pas de ilm, qui ne connaissait pas la clémence et la possibilité qu'Allah de pardonner, subhanallah, la possibilité d'Allah est infinie. Il a dit que, abadan, impossible, tu as tué 99, c'est 99 meules, on va dire, c'est un psychopathe de très haut niveau. Il dit jamais, aucun pardon possible. Personne était tellement énervé. C'était, si on faisait un, comment on appelle ça, un check-up, un psychiatre ou un psychanalyste, il pourrait dire quelles sont les pathologies présentes chez cette personne. D'accord? Il était nerveux, il était virulent certainement, réactif et tout. Et lorsque la colère prenait, il pouvait pas tenir, il éliminait la personne qui posait le problème. Bref. Donc, il a tué la personne, le Abid. Et du coup, il dit que il n'est pas sorti de l'auberge parce que de 99, il passe un condron, 100. Ce n'est pas un objectif, je pense. Et donc, il va voir quelqu'un d'autre, un alim cette fois-ci. En commentaire, les muhadithis disent, là, il a été voir un savant. Et un alim, le alim, c'est qui? Ce n'est pas uniquement celui qui connaît le fiqh, la jurisprudence, le masla. C'est celui qui connaît son Seigneur aussi, qui est capable d'expliquer aux gens, de conforter les gens et les rassurer en parlant d'Allah Azza wa Jal. Il a dit que bien sûr, Allah peut te pardonner. Et déjà, la personne t'est rassurée. Que Allah peut m'accepter encore. Parce qu'il n'y avait rien de pire pour cette personne que de se sentir exclu. exclu complètement et rejeté par Allah. Et là, cette personne lui donne la possibilité de retourner vers Allah. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle dit, tu demandes pardon et surtout tu vas habiter dans telle région, dans tel quartier, pas quartier, mais dans tel endroit, tu dois quitter où tu habites. Là-bas, il y a des gens pieux, va rester avec eux. Les savants disent, voyez, le tauba, certes, mais également les précautions. Quitter le contexte, le lieu qui vous amène vers les péchés et amener un changement en impulsant quelque chose de nouveau et en enlevant ce qui était mauvais. Être capable d'analyser ce qui nous amène vers les péchés et donc le changement, ça commence par nous-mêmes. Et donc, la personne a pris sa monture, ses affaires, il est parti et en chemin il est mort et les anges, ses anges disent que oui, non, mais lui il a fait tel péché, on doit, c'est les anges du azab, des châtiments, et l'autre ange dit non, il a demandé pardon, il était en voie, il n'avait pas demandé, hein. Il avait fait un premier pas vers le pardon d'Allah en prenant son chemin et en allant vers cet endroit, et Allah a décrété que son tawbah était accepté parce que il s'était mis en route vers Allah Azza wa Jal. Il s'était mis en route vers son Seigneur et il a obtenu le pardon d'Allah Azza wa Jal. Allah lui a accordé son tawbah. C'est quelqu'un qui est mort avec combien de péchés? C'est bon. Parce qu'après ce centième meurtre-là, il n'a pas commis d'autres péchés. Il a pris de bonnes résolutions. Il a dit, c'est pas vrai. Lui, il a été pardonné par Allah. Oui, il a été pardonné par Allah. Et nous alors? Sans le moindre doute. Si on est sincère, on prend les précautions et on montre à notre Seigneur. On a besoin de montrer à Allah. Et Allah, il sait ce qu'il y a de nos cœurs. Mais ça, c'est, comme on parlait cet après-midi, l'ostentation positive. C'est quand on arrive à ce degré de ihsan qu'on veut montrer à Allah qu'on est là, on est présent, on a la bonne volonté. Et on fait les efforts qui vont dans ce sens. Ne doutons point, mes chers frères en islam. Il n'est pas permis de douter qu'Allah nous accorde son pardon. Donc, si à chaque nuit de Ramadan, on est capable de se réveiller pour le Qiyam al-Layl, la prière de la nuit, Tahajjud, et que demande pardon à Allah Azza wa Jal sincèrement en énumérant nos péchés. Il faut énumérer les péchés. Si on les regrette, c'est que on sait de quoi on a, dans quel domaine, dans quel péché, dans quel ma'asiyah, on a fait ces erreurs. Donc on énumère, ya Allah, cette année même, après le Ramadan, j'ai recommencé à faire telle chose. Ya Allah, j'aurais pas dû. J'avais déjà demandé pardon. Ya Allah. Et puis on demande, on implore Allah par ses asma, ses sifat. On essaie de montrer toute notre sincérité. On essaie de pleurer en demandant pardon. Et quand le tawbah était demandé, renouveler le tawbah. Ya Oumiyan, tous les jours. Redemander pardon pour l'intégralité des péchés. Et ayons conviction que Allah nous a accordé son maghfira. À partir du moment où dans notre tête, on a déjà l'intention ferme. Khalas, on a fermé ses portes de péché. À partir du moment où, quand vous demandez pardon, que dans votre tête et dans le cœur, je veux dire, et là, il n'y a que nous qui savons, nous et Allah, basse, nous et Allah, ensuite nous, qui connaît qui est-ce qui a fermé la porte des péchés, ou celui qui laisse qui a l'intention de recommencer, ou celui qui laisse open, excusez-moi, il laisse open, d'accord? C'est comme un billet d'avion, vous êtes en open, vous laissez open, et on va décider après, est-ce que je reprends ou non? Ben, celui qui a dit, qui se dit qu'après je vais voir, si je recommence ou non, il n'a pas fait azm. Il n'a pas fait l'intention ferme d'arrêter net. Donc, ce tawbah, il peut être accepté à partir du moment où intérieurement on a pris de bonnes résolutions. Voilà, ikhwan fillah, concernant la nécessité d'avoir une pensée positive de notre Seigneur et de demander tawbah à Allah Azza wa Jalla. Il me semble que la semaine dernière, on avait clôturé l'intervention sur le iftar et le dua. On avait parlé de l'importance du moment de la rupture du jeûne et donc l'importance istighlal al-waqt bi du'a, l'importance de demander du'a au moment de rompre le jeûne, et on a expliqué quel du'a demander aussi. On avait parlé de ces personnes qui bloquent au moment de demander du'a et ces personnes qui bloquent au moment de demander du'a pour la rupture du jeûne, certainement ils bloquent aussi quand ils vont au Hajj, quand ils sont à Arafat, à un moment donné ils ne savent plus quoi demander. Quand ils sont devant la Kaaba, ils voient des gens qui demandent, qui pleurent. Quand on voit la Kaaba, on demande doigt. Et il est avec le groupe, et lui, il a demandé quelques doigts. À un moment donné, il ne sait plus quoi demander. C'est terrible, ça, non? C'est frustrant, ça, non? C'est-à-dire que la connexion avec Allah ne se fait pas correctement. C'est que le cœur n'est pas relié avec Allah correctement. On n'est pas capable de mettre toutes nos pensées dans ce cœur et demander à Allah. Il y a juste quelques doigts qui vous reviennent. Le cœur ne se livre pas à Allah. Donc, on a expliqué, on a donné pas mal d'exemples, et si réellement on applique tous ces exemples et que on pense à toutes les étapes de Akhira, ben notre dua, il faudrait commencer après Asr. Depuis Asr jusqu'à Maghrib, ça durerait notre dua. si on évoque chaque étape du Akhir en demandant à Allah protection pour cette étape et ainsi de suite, donc on peut répartir ses doigts, mais il y a des invocations à demander. On va parler 10 minutes, 5 minutes peut-être, c'est pas très long, sur le Suhur. Je sais plus, on a abordé ce sujet peut-être dans d'autres masjids. Est-ce qu'on a parlé du Sehri ici? Non, hein, on n'a pas parlé du Suhur. On en avait parlé les autres années, mais c'est un rappel. D'accord? On a fait combien de Suhur jusqu'à maintenant là? 11, je pense, ou 12. 11, d'accord? Le Sehri, Khwani Fillah, c'est un moment important. Et c'est la différence entre le somme qu'Allah nous a accordé et le somme qu'il avait accordé aux Yahoud et aux Nassar, aux autres communautés. Vous connaissez le verset? Que le jeûne nous a été prescrit comme il a été prescrit aux autres communautés. C'est le verset que nous citons tout le temps, le verset du somme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans un hadith, rapporté par l'imam muslim, faslun ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab akalatu sahar. La différence qu'il y a, le fariq, entre notre carême, notre somme, notre rosa, et le somme, le jeûne des gens du livre avant nous, quand ils le faisaient encore, c'est le suhur. C'est-à-dire, c'est un cadeau, un plus qu'Allah Azza wa Jal a accordé à sa umma, qu'il n'avait pas accordé aux autres communautés. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, incite les croyants à prendre le suhur, tasahharu, fa inna fi suhuri baraka, rapporté par Bukhari Muslim, ô musulmans, faites le suhur. Prenez le repas du suhur, du sehri, parce que dans le sehri, il y a la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Certains disent que, pourquoi est-ce que le prophète nous incite à prendre le sehri? Parce que ce n'est qu'un, ça reste un repas, le sehri. Mais est-ce qu'il y a des récompenses? Le prophète dit qu'il y a la baraka, il y a la bénédiction d'Allah dans ce repas du matin. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de parler de ce sujet? Parce que c'est un sujet d'actualité, théoriquement on fait suhur, le sehri tous les matins. Parce que également il y a des gens qui font des blocages par rapport au sehri. Il y a des personnes pour différentes raisons, ils disent que non, on ne fait pas sehri. Première raison, il y a des gens qui disent que on n'arrive pas à se réveiller aussi tôt. Alors là déjà il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à être réveillé à 5h15 par exemple. Le suhur c'est jusqu'à quelle heure? 27, 5h27, on peut aller jusqu'à 5h33, je ne dis pas tout le monde, hein? Mais le suhur sadiq c'est 5h35, non?
Oui.
D'accord. Mais maintenant, après il y a un petit massage, des gens disent, est-ce que je peux manger jusqu'à azan? Attention, ici on donne azan 10 minutes après le suhur sadiq. C'est-à-dire que quand le muadhin donne azan, c'est qu'il y a 10 minutes qui est déjà passé. Donc qu'on s'en tienne aux chiffres, qu'on s'en tienne au petit catalogue, au papier qu'on a, d'accord? Donc 5h15, tu ne peux pas être réveillé, donc déjà il y a un problème. On en est en hiver, donc en été encore, on va dire que si le suhur, je ne sais pas, c'est 4h20, 4h30. Mais même ça, c'est inacceptable. Même ça, ce n'est pas une excuse, parce que le mu'min se doit d'être présent dans le dernier tiers de la nuit. Dernier tiers de la nuit de Ramadan et tu dors? Dernier tiers, c'est passé ça. Dernier tiers de la nuit de Ramadan et tu ronfles. Tu es parmi les dormeurs, les na'imin, ma'yumkin. C'est même pas concevable. Mu'min billah, dernier tiers de la nuit, de toute l'année, il doit être présent déjà. Akhir thuluthul layl, où Allah Azza wa Jal distribue son maghfira aux gens qui lèvent les mains, qui demandent. Et en plus, khas satan mois de Ramadan, on ne peut pas se permettre de se réveiller juste pour aller faire fajr al masjid. Ça, c'est inconcevable. Ça, c'est quelqu'un qui ne fait pas d'effort pour ce mois de Ramadan. Et on a vu en début de, avant le mois de Ramadan, au mois de Sha'ban, à la fin lorsqu'on parlait de la préparation pour le mois de Ramadan, on dit que addu fihi anfusikum khaira, faites le maximum d'efforts, comme le prophète dit. Et les savants disent que parmi les efforts, c'est un changement dans notre rythme de sommeil, de, et ainsi de suite. C'est un effort. Maintenant, si mon rythme de vie ne change pas avant Ramadan et pendant Ramadan, est-ce que je n'ai pas fait d'effort? Se réveiller plus tôt, c'est un effort déjà concernant un mujahada, hein, concernant le sommeil. Donc, premier alibi, premier excuse de ces gens, il est trop tôt, ça c'est inacceptable. Deuxième point qui revient, et ça c'est un peu plus cohérent, il y a des gens qui disent que oui, mais le matin, on va parler de l'autre raison qui est inacceptable aussi, il y a des gens qui disent que je fais régime. Donc j'ai rythmé mes repas à un repas. Je mange que le soir et le matin je ne prends rien, c'est régime. Bon, déjà en parenthèse, quand on voit qu'est-ce qu'on mange pour la rupture du jeûne, c'est pas un régime. Si quand on voit le nombre de fritures, de lipides qu'on ingurgite, on mange plus de samoussa dans ce mois béni que durant les 11 autres mois de l'année. On est d'accord. Donc en termes de régime, on va raconter ça à d'autres personnes. La raison qui revient, c'est des gens qui disent que le matin, on n'arrive pas à manger. Nausée ou autre chose. À moins que tout le monde soit enceinte, ça c'est autre chose. Mais du côté des frères, ça, je ne pense pas que ce soit possible. Donc il y a des gens qui disent qu'on est nauséeux le matin. Je dis oui, mais ok, il y a des gens qui n'arrivent pas. On discute avec des élèves qui disent qu'ils n'arrivent pas. Ils disent ben, mange un Twix, mange un chocolat. Ils disent le chocolat aussi, mais ils n'arrivent pas. Enfin, moi, je pensais pas qu'il y a des êtres humains qui pouvaient pas manger du chocolat 24 heures, H24. Moi, je peux H24, c'est possible. Khair, inshallah, c'est autre chose. Donc, il dit qu'on n'arrive pas à manger. J'ai dit, oui, mais, akhi, mais il ne t'a pas été demandé non plus de faire un festin pour Sahri. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a parlé de la baraka. Réponds présent parmi les mutasahirines et mange quelque chose, tu seras parmi les mutasahirines. Le prophète n'a pas précisé qu'il faut manger une telle quantité de viande ou de non, il n'y a pas de sunna concernant ce qu'il faut manger. Juste réponds présent, mange avec eux. Et dans le hadith, le prophète sallam dit, as-suhur kulluhu baraka, fala tada'uhu walaw. Tout ce que vous pouvez consommer pour le sahri, c'est baraka. Ne l'abandonnez pas, ô musulmans, même si une personne ne doit, ne serait-ce boire, une gorgée d'eau. Et dans d'autres hadiths, même si vous consommez une date, mais consommez pour le sahri. Vous répondez présent. Donc ça, c'est muhim. Ça, c'est extrêmement important. Puis les savants disent également, le fait d'être réveillé pour le dernier tiers de la nuit et de prendre le suhur, nous allons bénéficier de quoi ? Des invocations, des anges, des doigts en notre faveur. Vous imaginez des anges qui demandent doigts pour nous ? Nous, parfois, quand on a un homme pieux qui vient, nous quoi, dit, ça, fais doigts, bouzrouk et tout, fais doigts pour moi, Allah va accepter au doigt parce qu'on m'a mis les mauvais ou les bons. Mais on a l'impression que les doigts des autres, c'est toujours mieux que le doigt. Mais là, on a des malaïkas qui demandent doigts pour nous. Vous vous rendez compte ? La ya'afoun Allah ma amarahum. Des créatures qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jawa, yaf'alouna ma yu'marun. Des créatures de nour, de lumière. Et le prophète dit le hadith, si on retrouve le hadith, tasahharu fa inna Allah, alors premièrement, yuhibbul mutasahirin. Faites le suhur parce qu'Allah aime les gens qui font sahiri. Déjà, cette première partie de phrase, ça ne m'intéresse parce que si je fais sahiri, je me mets, comme si je fais copier, je prends Ibrahim, Moussa, Ishaq, je me mets parmi les gens qui sont aimés par Allah. Est-ce que ce n'est pas déjà là une consécration ? Savoir que je fais partie du qafila, du wagon de ce groupe de personnes qui, à ce moment, même si c'est 10 minutes dans ma journée, même si c'est 10 minutes dans ma vie, mais si 10 minutes de ma vie, je sais qu'Allah m'a aimé à ce moment-là, n'est-ce pas déjà un succès ? N'est-ce pas déjà une part de bonheur de savoir qu'Allah m'aime à ce moment précis ? Allah aime les gens qui prennent le suhur, qui prennent le sahri. Et puis le prophète dit, wal malaikatu tusalli 'ala al-mutasahhirin wa tastaghfiru lahum. Les anges invoquent Allah Azza wa Jal en faveur des croyants qui prennent le suhur et demandent istighfar. Il y a deux choses, demande du'a pour nous, istighfar pour nous. Une créature de lumière qui demande, oh Allah, pardonne à Abdullah, à Ishaq, à Ibrahim, à Moussa, à Isa. Vous ne pensez pas que ce istighfar sera assurément accepté par Allah? Vous voyez, quand on dit que le mois de Ramadan, c'est baraka du début jusqu'à la fin, on ne s'imagine pas. Et ça, c'est ce que notre prophète nous a expliqué. Mais il y a peut-être d'autres secrets, il y a d'autres fada'il dans le mois de Ramadan. Allah seul le sait. Le Ramadan reste quand même mystérieux. On ne connaît pas réellement l'aboutissement, les récompenses de l'au-delà. On sait qu'il y a une porte qui s'appelle Rayyan, on connaît ça. Mais plus, Allah a dit que wa ana ajzi bihi. Et c'est moi qui en rétribue. C'est moi qui en rétribue. Allah seul sait comment il rétribue. Il y a tellement de trésors de ce mois. Donc le suhur, le sahri, fait partie des trésors du Ramadan. À nous de répondre présent et de prendre le repas du sahri. Et idéalement, comme on avait expliqué, idéalement, c'est quand on se réveille un peu plus tôt, on essaie de faire deux raka'at de prière. C'est vraiment le moment par excellence de poser son front devant Allah et de demander pardon pour nos péchés, demander ce qu'on a besoin. On avait fait un tableau, on ne fait pas de bidat, hein, mais une organisation. On avait fait un tableau pour les enfants, les élèves, les enfants, c'est-à-dire les grands, les lycéens. On a dit voilà, je vous propose un programme. Et on avait fait au tableau, ils ont écrit, on l'a fait sur ordinateur, on doit les distribuer avant que Ramadan se termine. On a dit voilà un programme accessible. C'est pas un programme pour les, mashallah, ceux qui se réveillent 2 heures du matin et qui restent debout jusqu'à 4 heures. Ça, c'est un another level, comme on dit. On parle de musulmans lambda qui, comme nous, comme on dit en arabe, en dialecte, on dit mashil hal. Il fait son chemin, il essaie d'avancer. Il dit que vous vous réveillez à 4 heures du matin. Allez, non, on a été, après on a revu l'heure. Il dit qu'on. C'est pas pour nous, ça, c'est pour les enfants, des lycéens qui sont en vacances, d'accord ? Et les profs aussi. On se réveille à 4h30 du matin. C'est pas sorcier. En arabe, on dit c'est pas sahir. Non, on ne dit pas ça. C'est pas compliqué de se réveiller à 4h30, une heure avant la fin du sahri. C'est à la portée de tout le monde. Même des enfants pourraient faire ça. Vous vous réveillez à 4h30, vous allez aux toilettes, vous faites vos ablutions, mettez des vêtements propres. Ne faites pas les actions avec le pyjama. Mettez un vêtement propre pour l'occasion. Et de 4h, quand vous êtes prêt, tahara, tout est fait, il est 4h35, faites 10 minutes de qiyamul layl, de prière de la nuit. Salat tahajjud, 10 minutes. J'ai dit, faites 6 rakat. Et j'ai dit à ses élèves, les deux premières rakat, vas-y doucement. Parce que c'est la sunnah. Peut-être qu'on aura l'occasion de parler de la façon de faire tahajjud. Le prophète, lorsqu'il commençait le tahajjud, il faisait 2 rakat khafifa, des petites rakat. On ne commence pas tahajjud directement avec 2 pages, 3 pages de lecture dans une rakat. Non, on commence doucement. Le corps a besoin de temps pour s'adapter. Dis les 2 premières rakat, c'est cadeau. C'est qu'il y a les kafirun et qu'il y a Allah wahed. Ensuite, dans les 2 autres rakat que vous allez faire, là vous lisez ce qu'on vous a appris. Les ayatul kursi kamilan. Depuis Allahu la ilaha jusqu'à la fin de Allahu waliyul ladina amanu. Ça vous fera déjà une rakat plus longue que votre namaz zohar, afin maghrib isha. Donnez un surplus au tahajjud, qu'il se distingue des namaz faraz. La deuxième rakat, lisez ce qu'on vous a appris également, lillahi ma fis samawati, jusqu'à la fin de Baqara. Et ensuite, dans le rakat suivant, dans les 2 autres rakat, là on passe à un grade supérieur, vous partagez surat Yassine en 2. Là, ça va faire de belles rakat. Ça vous prendra au total 15 ou 20 minutes. Il sera peut-être au plus 5 heures moins 5. C'est-à-dire 5 heures moins 5. Ensuite, vous faites 5 minutes de doua. Et vous demandez tout ce qui vous tient à cœur. Et on a fait parler les enfants. Qu'est-ce que t'as... Tu attends quoi de la vie? Et c'est extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant quand des jeunes de 17, de 16, 17 ans, ils vous disent qu'est-ce qu'ils attendent de la vie. On voit le dunya qui est là. On voit ce que la société les a fait avaler comme objectif. Mais après, on essaie de recadrer. D'accord, c'est bien tel métier, telle chose. Mais demande à Allah telle chose également. Pense à ton mariage. Les jeunes ne pensent pas au mariage. Hein. Les garçons n'y pensent pas du tout. Ça, c'est grave, ça. Les filles, peut-être, puisqu'elles rêvent. Mais les garçons, ils ont un autre idéal de la vie. Et on a besoin de ramener le concept nikah de la vie des jeunes. Parce que sans ça, on ne trouve pas l'équilibre. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, il dit que maintenant, quand tu as fait 5 minutes de doua ou 10 minutes, il est 5h05, 5h10, 5h05, 5 minutes encore, avant le doua et votre chose, 5 minutes d'istighfar. Si tu aimes utiliser tasbih, prends tasbih, si tu veux pas, tu as tes doigts, ou comme tu veux, istighfar. Il peut demander quelle est la formule d'istighfar que vous connaissez. Donc, il y a astaghfirullah, il y a astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atubu ilayh. Il y a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Celui qui lit 100 fois et qui demande à Allah quelque chose dans une situation de difficulté, inshallah sa demande est acceptée. Ça prend pas beaucoup de temps. Et idéalement, lisez une fois le sayyid de l'istighfar. Ça c'est long. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Ça c'est un peu long. On peut le mettre sur notre portable. Vous pouvez le mettre en application, c'est très simple. Vous l'allumez, vous le lisez. Avec la traduction, vous savez qu'est-ce que vous êtes en train de demander. Je dis que de cette façon, tu as passé une nuit de ibadah qui est correcte, alhamdulillah. C'est pas énorme, mais tu as fait l'effort. Et vu ton niveau, en tant que jeune, cette action, elle a de la valeur pour Allah Azza wa Jal. Et ensuite, tu prends ton repas de suhur. Et après le suhur, ne dors pas, surtout. On a encore des gens qui, après cette nuit, dorment et qui ne font pas fajr. Je vous assure, il y a encore ce genre de makhloukat qu'après suhur, ils vont s'assoupir un peu et ils ratent fajr. Je dis, ajib. Je dis qu'il n'y a aucun sens. Il donne un exemple aux jeunes, excusez-moi, l'exemple est décalé, c'est un exemple de jeunes. Il dit, c'est comme si tu vas assister à une finale de Ligue des Champions, tu vas au stade de Bayern de Munich, tu as 2-3 heures de temps, tu as attendu pour avoir ton billet, ton ticket. Quand il arrive, tu achètes et quand le match commence, dit, ah, mais ça dort, il est tellement fatigué à se dire. Tu as fait 3 heures de temps debout, tu as acheté ton billet qui a coûté 140, 150 euros, le billet de la finale, et à l'heure tu dis, ah, arrête, fatigué, là, mais ça repose, ça largue le corps un peu. Et tu as raté le match. J'ai même eu des cas, ils disent qu'ils font sehri, ils font pas fajr du tout. Ils ont vraiment des niveaux d'éloignement du din, hein, et ils font pas maghrib non plus. Non, là, il y a ahwal quand même de la Ummah. On a besoin de travailler ça. Dit qu'ils font le iftar, à la maison, ils mangent et tout, et après le repas, ils viennent masjid pour Isha. J'ai dit maghrib. Elle dit non, ben, on nous fait Isha. Non, il y a des niveaux de jahl. Ça, c'est les parents qui sont responsables. Si un papa, une maman ne donne pas les bases aux enfants, il faut pas incriminer les jeunes qui, ben, tu connais pas telle chose. Déjà, c'est à nous d'enseigner et c'est aux parents d'encadrer. Donc, ça, c'est autre chose. Et donc, il dit que les conseils qu'on donne à ces jeunes ensuite, parce qu'après après le salat, après le suhur, dors pas, surtout dors pas. Prépare-toi, va à la masjid directement. Avant le salat de fajr, tu as le temps de lire un juz. Tu as le temps de lire un sipara. Il faut 15-20 minutes, ou alors démarrer 3, 1, demi sipara ou 3 quarts. Je dis, après fajr, s'il y a madrasa, il y a madrasa. Autrement, après le salat de fajr, reste à la masjid, sors pas de la masjid. Jusqu'au lever du soleil. Et lis le Coran, fais dhikrullah, et fais ton shuruq, le ishraq. Ensuite, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux, tu vas travailler ou autre chose. C'est une bonne journée pour un croyant. C'est un effort qu'on a fait. On a montré à Allah Azza wa Jal ce que j'ai envie de faire pour Allah. Et c'est très bien. Et avec ça, il suffit que ce jeune accomplisse ses quatre autres namaz en jamaat et qu'il essaie de lire un peu de Coran et qu'il contrôle son regard, qu'il contrôle son sam', il contrôle ce qu'il écoute. Il n'écoute pas la musique qu'il a l'habitude d'écouter en temps normal. Il fait quelques efforts. Il ne dit pas n'importe quoi. On peut dire que c'est un bon Ramadan au niveau Mustawa de Shabab, au niveau des jeunes dans le contexte où on est. Donc chacun en fonction de son niveau, il a besoin de faire un effort. Donc le suhur, on démarre, tout va commencer du sihri. Il faut qu'on réponde présent et qu'on essaie d'orienter, de démarrer notre journée à partir du suhur. Voilà, c'était une petite explication. Et puis il y a d'autres kalams, des ulama, en commentaire de hadith, quand on parle de baraka, si vous voulez, on le dit rapidement, parce qu'on a encore un peu de temps aujourd'hui, alhamdulillah. Ibn Hajar. C'est qui Ibn Hajar? Entendu parler? Ibn Hajar. Dans quel club a-t-il joué? Combien d'étoiles? Commentateur de Bukhari. Ibn Hajar al-Asqalani. Il a pris, si je ne me trompe pas, 40 ans pour rédiger le Fath al-Bari, le commentaire de Bukhari. Et Ibn Hajar s'est engagé dans le ilm, dans la connaissance religieuse, très tard. Par rapport aux ulama de cette époque, c'était considéré comme tard lorsqu'il s'est engagé dans la voie du ilm, où il est rentré à fond. Mais il a produit un travail qui est reconnu dans le monde musulman comme étant le meilleur ouvrage écrit par un être humain. Fathul Bari. Si vous essayez de porter Fathul Bari, il faudra prendre anti-inflammatoire et des problèmes sous des problèmes de dos. À moins vous êtes costaud, alhamdulillah. Jabal fil ilm, montagne en connaissance religieuse. Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans un des commentaires des hadiths concernant le jeûne, il dit que lorsque on parle de baraka dans le suhur, il dit, hey, premièrement, qu'est-ce qu'on a comme baraka, comme bénédiction? Premièrement, des récompenses, parce qu'on met une sunna en pratique. C'est déjà quelque chose. Deuxièmement, at-taqawwi lil-yawm. Ce repas te donne la force, l'énergie pour la journée. Et là, ça ne se calcule pas en calories, hein, en kajoul ou en kajour, je sais pas quoi. Là, ça se calcule en baraka. Là, il n'y a pas de chiffre, là. Il n'y a pas de chiffre besoin journalier, non. Parce qu'on se dit que oui, mais même si je consomme telle chose, ça ne couvre pas la journée. Regarde pas ça, il y a la baraka dedans. Ça te permet de tenir la journée. At-taqawi ala al-ibad. Et ça, c'est important. Il dit que le suhur te donne la possibilité d'avoir donc cette force pour faire les bonnes actions toute la journée. Pas que mon étudiant, plus je suis fatigué, je dors, je ne vais pas à Namazor, parce que j'ai carrem, j'ai mal à la tête. Non, il te donne la force pour faire les bonnes œuvres durant cette journée. Quatrièmement, il dit que parmi la baraka, sabab, c'est une raison d'être réveillé à l'heure de l'acceptation des doigts. C'est ce qu'on avait dit au début. Au moins tu es réveillé. Il dit, mudafa'a su'il akhlaq, et ça enlève les mauvaises, le mauvais comportement du jeûneur qui est fatigué. C'est-à-dire que quand on prend le suhur, on ne va pas s'emporter. Parce que très souvent qu'on a carême, c'est là qu'on est le plus mauvais humeur, de mauvais poil. Parce qu'on a faim, on a soif, on a mal à la tête. Et au contraire, celui qui prend le suhur, il y a une raha, une tranquillité de son cœur qui fait qu'il aura un bon akhlaq toute la journée. Il ne va pas s'emporter à cause de ces situations. Et d'autres commentaires des ulama, mais on est persuadé de l'importance de ce moment et on essaie, inshallah, de répondre présent parmi les mutasahhirin. Sarat Allah, inshallah, pour aujourd'hui. Moi, j'aurais juste voulu raconter une histoire. Une histoire que on a expliqué ça dans les commentaires. Je ne sais pas si vous retrouvez, il y a tellement de, mashallah, de ayat du Coran. Une histoire en rapport avec لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Une petite histoire qui prendra 3 minutes, qui nous donne une idée de l'amour que le prophète Sam avait pour nous. Comment le prophète Sam aimait sa umma. Ce verset qui parle, on n'a pas le temps de lire la traduction, mais comment le prophète aimait sa umma. Et comment le prophète Sam voulait au maximum, il voulait faire tous les efforts possibles pour sauver chaque membre de sa umma. Et que jamais il repoussait quelqu'un. Nous, on est prêts à repousser les gens. Quelqu'un vous a déçu une fois, on peut parler, comme on a dit tout à l'heure, on peut l'accepter. Il vous déçoit une deuxième fois, vous le bordez complètement. Mais le prophète alayhi salatu wassalam avait cette rahma dans son cœur pour chaque membre de sa umma. Ibn Kathir rahimahullah rapporte en commentaire de ce hadith un exemple. Il dit un bédouin était voir le prophète sallam. On connaît les bédouins, c'est des gens compliqués. C'est des gens avec un très mauvais comportement. Ils parlaient d'une façon difficile et leur manière d'interpeller c'était un peu, voilà quoi, c'était vraiment limite mauvais comportement. Un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demander de l'aide, une aide financière. Dans certaines sources, on parle fi damin, pouvoir payer le prix du sang. Apparemment, peut-être qu'il avait tué une personne accidentellement et donc devait verser le prix du sang à la famille de la victime. Il a été voir le prophète et le prophète était en compagnie de Sahaba. Il lui a donné un peu d'argent. Combien, c'est pas précisé. Mais pas suffisamment certainement pour couvrir le prix du sang. Le prix du sang, c'est très élevé ça. Donc pas suffisamment. Et là, le prophète lui a demandé « Ahsantu ilayka ? Est-ce que j'ai bien agi ? Est-ce que je t'ai donné suffisamment ?» Le bédouin a dit « Non, c'est pas grand-chose, tafalallah. » Il a dit « C'est quasiment rien. » Imaginez les sahaba qui sont là. Le sang fait un tour. Et ils se sont fait « Raghiba, ba'd al-muslimin wa hammu an yaqumu ilay. » Les sahaba étaient très en colère. Il dit « Comment est-ce qu'il peut dire ça au prophète ? Le prophète ne lui doit rien. » Il a demandé de l'argent, le prophète lui a donné. Il n'a pas donné tout ce qu'il fallait. Le prix du sang, si je ne me trompe pas, c'est 100. À l'époque où on était encore là-bas, c'était 100 000 rials. Si je ne me trompe pas, le prix de 100 chameaux, 100 000 rials divisé par 5, ça fait 20 000 euros. Mais maintenant, ça a augmenté. Et l'euro a chuté surtout. Donc, ça, c'est un autre problème. Donc, quelqu'un il vient vous demander est-ce que vous êtes capable de donner 30 000 euros ? Personne ne fait ça. Le prophète lui a donné de l'argent. Et le prophète, dès qu'il gagnait un peu d'argent, de le butin ou autre chose, il ne gardait pas, le prophète ne thésaurisait rien, il donnait aux musulmans, aux fuqara. C'était ça son objectif. Et les sahaba étaient très en colère. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux sahaba, kuffou, arrêtez. Il les a contredit, ne parlez pas, ne vous levez pas, laissez-moi régler ça. Le prophète alayhi salam s'est levé aussi, il est parti chez lui. Chercher, est-ce qu'il a encore un peu d'argent. Et il a invité ce bédouin chez lui. Quand quelqu'un il vous cherche des problèmes, vous l'invitez chez vous, au contraire, vous ne pouvez plus voir Ali. Le prophète lui a dit, viens chez moi. Et là, il parle à ce bédouin, il dit, et vraiment, quand le prophète s'adresse à un mu'min et à quelqu'un qui en plus a fait des erreurs, il parle avec une telle gentillesse. Les paroles, on a du mal à traduire, c'est une telle bonté, dit Subhanallah, ça c'est Nabiullah, dit Innaka ji'tana, fa sa'altana, fa a'tainaka, dit tu es venu me voir, tu es venu nous voir, nous solliciter, on t'a donné. Et fa qulta ma qulta, il n'a pas dit que tu as osé dire ça, le prophète m'a dit, et tu as dit ce que tu as dit. Cette parole est tellement mielleuse, tu as dit ce que tu as dit, c'était pas bien, mais tu as dit, sans rappeler qu'est-ce que tu as dit, pour pas le vexer ou autre chose. Et le prophète me dit, voilà, maintenant je te donne telle somme. Il a donné pas mal d'argent. Et là, le prophète me dit, Ahsantu ilayk, est-ce que maintenant je t'ai honoré? Et le arabi, le bédouin dit, Jazakallahu min ahli wa ashirati khayra. Qu'Allah te récompense, je te remercie en mon nom et au nom de tous les membres de ma tribu. Remerciement à toi au prophète d'Allah. Le prophète me dit, maintenant il reprend, il dit, tu es venu nous solliciter, on t'a donné, et tu as dit maintenant ce que tu viens de dire, des paroles positives. Mais sache, oh mon frère, que mes compagnons ont entendu de ta bouche des paroles qui les ont un peu gênés. Il faudrait que tu reviennes auprès d'eux et répètes les mêmes paroles que tu viens de dire. Hatta yudhiba an sudurihim. Parce qu'il y a la frustration dans le cœur des sahaba. Le prophète dit, voyez le prophète, son intelligence. Il voit que les compagnons étaient en colère, il les a calmés, mais la colère reste dans le cœur. Maintenant, on va réparer l'erreur. Et le prophète a dit à ce bédouin, maintenant reviens. On retourne près d'un masjid, auprès du même majlis. Et le prophète dit que voilà votre inna sahibak. Et déjà le thème que le prophète utilise, votre compagnon. Ça c'est votre compagnon. Il y a la ilaha illallah de son cœur. Ça c'est votre frère, ça. Il s'est trompé, mais ça reste votre compagnon. Dit votre ami, votre compagnon, il est venu. Il nous a demandé, on lui a donné, et apparemment il est satisfait. Est-ce vrai? Et là, le bédouin dit la même chose. Oui, au prophète d'Allah, merci, jazakallah khair, en mon nom et au nom de chaque membre de ma tribu, tu nous as aidés. Et là, les sahaba étaient contents, qu'il s'est rattrapé. Et là, il est parti, le prophète. Et le prophète a dit que vous savez, exemple, moi, comparé à ce bédouin, à cette personne, c'est comme une personne qui a perdu sa chamelle dans le désert. Et il va voir des gens, il dit, mon chameau n'a pas le chemin, allons attraper. Et les gens, ils courent avec des bateaux, ils crient, aïe, 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 on va retrouver le chameau. Le chameau, lorsqu'il voit les gens en train de courir, à vociférer, il a encore plus peur, il s'enfuit. Jusqu'à ce que le propriétaire, à un moment donné, il réalise que c'est pas comme ça que je vais le rattraper. Il va le voir, il dit, c'est bon, khalas, merci beaucoup pour votre aide, je vais m'occuper. Il connaît son animal, il connaît sa monture, il va le voir, il le prend, il le caresse, il donne un petit truc à manger, il obtient sa confiance et le chameau revient, il remet la telle et il reprend sa monture. Il a dit, c'est exactement ça. Il a dit, vous savez, si je vous avais écouté tout à l'heure en le maudissant, en l'écartant, cette personne-là, il serait dans le Jahannam. Il l'aurait comme destination le Nar ou Jahannam. Mais je suis Nabiullah. Je suis le prophète d'Allah et j'ai de l'amour. Ça, c'est moi qui rajoute. Ça, c'est l'amour que j'ai dans mon cœur pour chaque croyant. Il est de mon devoir de ramener les gens. Les savants disent, voyez le shafaqa, l'amour que le prophète avait pour chaque membre de sa umma. Puisse Allah, on demande à Allah Azza wa Jal de nous donner cette rahma de notre cœur pour l'ensemble des musulmans et que nos cœurs deviennent que nos cœurs se remplissent d'amour pour la umma. Qu'Allah nous l'accepte. On va faire doigt, inshallah. Chacun fait son doigt avant la rupture du jeûne. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifoun. Wa salamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.